Vincent Calame, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes, chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre. C'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Mais aujourd'hui, le thème du jour m'a un petit peu surpris, c'est quand le code envoie en prison.
Oui, tout à fait. Alors, j'avais aussi proposé cette morceau de musique qui s'appelait Human versus Machine, parce que l'idée de la guerre entre les humains et les machines est un thème presque aussi vieux que la science-fiction elle-même. D'ailleurs, la pièce de théâtre Rur, écrite par le tchèque Karel Čapek en 1920, où a été inventé le thème robot, décrit déjà une révolte des machines conduisant à l'anéantissement de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous en sommes heureusement encore pas là. Alors certes, le terme intelligence artificielle est à la mode et mis à toutes les sauces. J'imagine d'ailleurs qu'aucun projet informatique ne peut lever de fonds actuellement sans prétendre faire appel à de l'intelligence artificielle entre guillemets. Mais le terme est évidemment abusif, nous sommes loin d'une vraie intelligence. Pas besoin d'ailleurs d'une quelconque intelligence hostile et extra-humaine pour s'inquiéter de la place prise de nos jours par les algorithmes dans les réseaux sociaux et du risque qu'ils font courir à notre vie démocratique. Je pense que toute personne qui code et consciente de l'enjeu politique du code doit se poser la question de sa responsabilité dans cette informatisation du monde. D'autant plus que le code informatique qui broie des vies humaines, qui envoie en prison, ce n'est pas de la science-fiction, on y est là aujourd'hui. Depuis 20 ans même au Royaume-Uni avec le scandale du logiciel Horizon.
Alors, peux-tu entrer dans le détail de cette affaire ?
Oui, alors en ce qui me concerne, je l'ai découvert tout récemment via un article du magazine M du Monde daté du 19 mars. Alors, malheureusement, l'article est réservé aux abonnés, mais j'ai mis d'autres références publiques sur le site. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans les années 1990, la Poste britannique met en chantier l'informatisation de son système de comptabilité. Le logiciel, appelé Horizon, est développé par l'entreprise Fujitsu. Il faut savoir que de nombreuses agences postales sont en fait gérées comme des franchises, avec des gérants qui sont des indépendants, parfois en gérant en parallèle avec un autre commerce. Ils sont appelés sub-postmasters. Donc le système est déployé massivement en 1999, et très vite des erreurs apparaissent. Bon, jusqu'ici, rien de plus classique. Les bugs font partie de la vie d'un logiciel. Le problème, c'est la réaction de la direction de la Poste britannique. En effet, comme le logiciel fait apparaître des différences entre recettes et ventes dans de nombreuses agences, la Poste britannique accuse leurs gérants d'étourement de fonds. Alors, Le Monde cite le témoignage d'une personne incarcérée à l'âge de 19 ans, en 2002. Donc, elle dit « J'ai été accusée d'avoir volé 11 503 livres par le Post Office. » Depuis le premier jour où les erreurs comptables sont apparues, j'étais coupable à leurs yeux. Ils me demandaient juste à quoi avait servi l'argent. J'ai été condamné à 6 mois de prison. Donc, à aucun moment, le logiciel n'était mis en cause. Il y avait une foi aveugle dans les données qu'il retournait et aucun moyen de les contester. Pas de traces papier et bien sûr, pas de code source ouvert pour aller vérifier de quoi il en retournait.
Alors, tu parles de 1999 et 2002, donc 20 ans après, cela fait encore l'actualité ?
Oui, c'est un autre aspect un peu hallucinant de ce scandale. C'est seulement en avril 2021 qu'un jugement en appel a cassé les condamnations pour fraude et vol des 555 victimes regroupées dans un collectif appelé Justice for Postmasters Alliance. Il faut savoir que le logiciel n'a vraiment commencé à être mis en cause qu'à partir de 2009, grâce à un article du média spécialisé Computer Weekly. Alors, une raison très importante de ce décalage dans le temps, c'est que les franchisés accusés étaient isolés et se croyaient seuls dans leur cas, la direction de la Poste britannique se gardant bien de signaler que plusieurs centaines de personnes étaient concernées. La personne témoignant dans Le Monde dit même qu'elle s'est aperçue qu'en 2015 qu'elle n'était pas seule. Alors, au passage, je trouve que cela fait étonnamment écho au combat actuel des livreurs d'Uber et d'autres plateformes pour faire reconnaître leur statut de salarié. Donc, logiciel opaque, direction irresponsable, employés précarisés par un statut d'indépendant, certains à 18 ou 19 ans, tout le cocktail est là. Notons également que le logiciel a continué de sévir longtemps, puisque Le Monde cite une autre personne, nommée gérante en 2006, dont les problèmes sont apparus en 2014. Au final, ni Fujitsu, ni la direction de la Poste n'ont été inquiétés, d'après l'article, et la facture de l'indemnisation, on parle d'1 milliard d'euros, sera pour le gouvernement britannique. Alors, et le logiciel libre dans tout ça ? Bon, un logiciel libre n'aurait évidemment pas protégé du cynisme de la direction de la Poste britannique. Mais l'accès au code aurait permis une contre-expertise technique qui n'aurait pas attendu 10 ans. Dans un article de Computer Weekly, ils annoncent le lancement par la Poste britannique d'une expertise extérieure sur le système informatique en 2012 seulement. Donc l'article du Monde part de frais d'avocat énormes pour le collectif de plaignants. Plusieurs dizaines de millions de livres. Je pense que payer quelques centaines de milliers de livres de codeurs talentueux et indépendants pour se plonger dans le code du logiciel Horizon Est-ce vraiment du luxe dont on peut se passer?
C'est une bonne question. Et j'aurais aussi une question de finalement qui est coupable dans cette histoire de dingue. Parce que là, tu parles d'un bug logiciel, mais un logiciel est un outil de travail qui, bah, comme tu l'as dit, tout à l'heure, nos invités, le sujet principal, peut avoir des bugs. Et comme tu l'as dit, visiblement, donc l'affaire date de 1999. Une analyse, une expertise a été menée en 2012. Donc au début de l'affaire, aucune analyse ou aucun audit du logiciel n'a été fait. Et finalement, on a cru. La direction de la Poste et les juges, surtout, qui ont pris la décision d'envoyer des gens en prison, ont cru ce logiciel sur parole. Donc finalement, c'est plus un scandale quelque part judiciaire qu'un scandale informatique. Quel est ton avis là-dessus sur la question ?
Oui, en soi, qu'un logiciel ait des problèmes, je crois que c'est vraiment très très courant. Ça doit être intégré dans la réflexion sur un logiciel. Surtout, on a beau le tester, le jour où on le met en production, on le déploie massivement sur des milliers et milliers d'agences, c'est sûr qu'il y aura des problèmes qui n'ont pas été prévus au moment de la conception. Donc personne ne prétend déployer un logiciel propre au premier clic. Donc il y a un problème. Le logiciel lui-même, de toute façon, le logiciel n'est qu'un outil, effectivement. S'il n'est pas intelligent, le responsable, c'est la réaction. Je veux dire, il y a des erreurs. Au lieu de se poser la question, bah, peut-être que ça vient de nous. Non, les erreurs, tout de suite, ont été imputées aux personnes, aux gérants.
Et d'autant plus, on peut rajouter qu'en plus, que tu as parlé tout à l'heure de cynisme, j'ai regardé un petit peu les articles de presse que tu cites, et il y a un des articles de presse indique, j'ouvre les guillemets, la Poste britannique a soutenu que les erreurs ne pouvaient être pas dues au système informatique, tout en sachant que c'était justement le cas. Il est en effet prouvé que le service juridique de la Poste savait que le logiciel pouvait produire des résultats inexacts avant même que certaines des condamnations ne soient prononcées. Donc là, on arrive vraiment dans un scandale. Je crois d'ailleurs que là-bas, c'est le plus gros scandale judiciaire qui existe, parce que ça concerne énormément de gens.
Oui, tout à fait. Il y a au moins plus de 500 personnes concernées, beaucoup de vies brisées, des gens qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre après ça. Parce que c'est effectivement, c'est comment faire la preuve de son innocence. Là, on est normalement, on est jugé, on est d'abord, il y a présomption d'innocence, on est d'abord innocent puis coupable. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est coupable d'entrée de jeu parce que le logiciel a dit vous l'étiez.
Comme le dit Étienne sur le Salon Web, c'est une vraie question de la valeur de la preuve.
Oui.
Mais écoute, merci pour Vincent cette chronique. J'espère que la prochaine sera un peu plus guillerette. Donc, elle sera en juin, je pense. Je te souhaite une belle fin de journée.
Oui. Merci.